là, je suis très heureux de pouvoir prêcher ce soir parce que je suis vraiment fatigué, en fait. Et je crois que j'aurais piqué du nez si j'étais sur la chaise. Et c'est plus facile de prêcher quand on est vraiment fatigué que quand on est assis. Alors, je suis reconnaissant que ça tombe ce soir. Alors, bien j'ai à cœur ce soir de partager un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et Muriel et Mathilde en ont déjà profité dimanche, mais je suis vraiment conduit à le réitérer. Et puis peut-être qu'il y a du bon à entendre deux fois la même chose, et c'est ma prière. J'aimerais ce soir parler de, on va dire, du sujet de l'estime de soi. C'est un sujet qui tient une place assez importante dans notre vie, dans la vie des êtres humains. La valeur de soi, quel regard on porte sur sa valeur, et donc quelle estime on a de soi-même. Est-ce qu'on a une bonne estime? Est-ce qu'on a une mauvaise estime de soi? Pourquoi c'est important? Parce que, eh bien, il y a certains d'entre nous qui, depuis longtemps, eh bien, sont assez satisfaits d'eux-mêmes, vivent assez contents de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont comme talent, comme capacité, de ce qu'ils peuvent accomplir dans la vie, de leur réussite, de leur parcours. Et une bonne estime d'eux-mêmes, ils se voient comme des gens de valeur, assez bien, pas mal situés dans le tableau. Parce qu'on se compare, évidemment. Et puis d'autres, au contraire, qui souffrent énormément de se sentir nul, d'un sentiment de dévalorisation, et finalement qui sont toujours en quête d'une bonne estime d'eux-mêmes et d'une valeur, et qui finalement vont accomplir des tas de choses, vont œuvrer, vont rechercher finalement dans le regard des autres leur valeur. Et on peut même se marier pour trouver sa valeur dans le regard de son conjoint, etc. Et puis ceux qui sont assez satisfaits d'eux-mêmes, d'ailleurs, veulent quand même que ça soit confirmé régulièrement. Et finalement, on met en avant cela et on cherche toujours une confirmation. Et c'est un sujet important parce que, finalement, notre regard est toujours centré sur nous-mêmes. Ça nous amène à nous comparer, ça amène à du mépris des autres, qu'on juge inférieurs. Ça amène à de l'orgueil ou à de la fierté, dans le cas où on est assez satisfait de soi. Et dans les relations les uns avec les autres, ça amène vite à quelque chose d'assez nauséabond. Et donc, c'est intéressant de voir ce qu'en dit la parole. Est-ce qu'on doit rechercher à avoir une bonne estime de soi? Parfois, on entend il faut reconstruire pour ceux qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Il faut donc reconstruire l'estime de soi. Ouais, est-ce que tout ça, ça a une validité biblique? Et c'est la question que j'aimerais poser ce soir. Et on va tâcher, par la grâce de Dieu, de regarder un petit peu les passages à disposition pour en tirer des choses importantes et qui vont nous aider par rapport à ce sujet-là pour chacun d'entre nous. Alors à noter que ce n'est pas forcément ceux qui sont bourrés de talent qui ont une bonne estime d'eux-mêmes. On peut être d'ailleurs avoir plein de talents, mais avoir une mauvaise estime de soi et penser qu'on est nul. Et inversement, il y a des gens très très satisfaits d'eux-mêmes, et à vue humaine, quand on les regarde, on se demande pourquoi ils sont satisfaits d'eux. Mais ils le sont. Donc, il n'y a pas d'équivalence entre j'ai beaucoup de talent et donc j'ai une bonne estime de moi. Ça peut être le cas, mais ça peut ne pas l'être. Hein, il n'y a pas d'équivalence là-dedans. Et donc, j'aimerais vous proposer une image ce soir, pour nous aider un petit peu à mieux comprendre peut-être ce que le Seigneur veut nous dire sur ce sujet. Et avant, on va reprendre un texte qu'on a, je crois, lu cette semaine, en 1 Corinthiens 4. Donc, ouvrons la parole en 1 Corinthiens au chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 1 qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Comme le rappelait Mathilde, cette église aux Corinthiens, ils avaient vraiment un problème avec le sujet de l'estime de soi. Et ils mettaient en avant tous les talents, tous les dons spirituels, mais certainement aussi les dons naturels. Il mettait en avant les riches aussi, il mettait en avant... Bref, tout ce que, aussi, nous, dans notre société, on met en avant. Et ils avaient une prédilection pour les gens qui, finalement, étaient doués, capables, avec de la réussite, avec du succès. Et ça, pour eux, c'était synonyme de spiritualité. Et puis les autres qui étaient moins doués, qui ramaient... qui peut-être étaient pauvres, bon, ben, c'était que le Seigneur n'avait pas daigné finalement les bénir, les doter, parce qu'il n'en valait pas la peine. Et les Corinthiens, comme nous-mêmes, confondaient finalement la valeur d'eux-mêmes avec leur talent, avec la présence de dons, de talents, ou leur absence. Et donc il y avait des rivalités, il y avait du mépris, il y avait des tas de tensions interpersonnelles sur ce sujet-là. Et nous, c'est souvent la même chose. Comme je le disais, dès qu'on est enfant, eh bien à l'école, quand vous êtes moins doué à l'école, eh bien vous vous sentez mal à l'aise, on vous pointe un peu du doigt, vous êtes celui qui ne comprend rien en français, qui ne comprend rien en maths, qui met toujours plus de temps que les autres à tout comprendre. Et puis après, il y a les intellectuels, hein. Eux, alors, c'est les premiers de la classe, et puis ils en sont fiers, et puis tout roule bien, et puis il y a un prestige, il y a une fierté, il y a un orgueil, et puis si on peut écraser un petit peu l'autre au passage, on ne s'en prive pas. Voilà, ça c'est ce qui se passe à l'école, souvent. Et donc, on peut avoir l'élève qui finalement va craindre d'aller au tableau parce qu'on se moque de lui, parce qu'il a le regard des autres, parce qu'il se sent nul, et les autres vont amplifier ça. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, on a remarqué qu'ils étaient doués, d'ailleurs, les parents ou la maîtresse, etc., les mettent en valeur et tout ça. Et donc, on finit aussi par être un peu imbu de soi, et donc avoir ce rapport un peu mauvais. Ça peut être des comparaisons dans le domaine du sport, ça peut être des comparaisons dans le domaine de la musique, les talents musicaux. On peut commencer un instrument la même année, seulement l'un va, avec la même quantité de travail, eh bien l'un va vraiment briller et l'autre va moins briller. Et parfois, dans une même famille, entre les frères et sœurs, eh bien c'est le cas aussi. Il y en a, ben, ils réussissent mieux, ils sont plus doués, ils sont plus brillants, et puis il y en a d'autres, ils rapent davantage. Et il y a une sorte de jalousie qui peut s'installer, ou de sentiment d'infériorité, ou alors de sentiment de supériorité pour l'autre. Et tout ça, ça nous forge. Et ça va forger aussi le reste de notre vie, et on continue sur ce chemin-là. Et même dans l'Église, on continue souvent de... finalement, chercher soit de confirmer notre valeur, soit d'essayer de la trouver et de se sentir moins nul et moins mauvais. Et ça peut faire profondément mal, et c'est destructeur dans un sens ou dans un autre. Dans un sens, on s'en vide parce qu'on en souffre, et dans l'autre, on croit que ce n'est pas destructeur, mais ça nous détruit parce que c'est de l'orgueil, qu'on méprise les autres et qu'on écrase. Donc ça, c'est un sujet important. Et là, dans ce qu'on vient de lire, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tous les dons que tu as, tous les talents que tu as, donne-moi un seul qui n'est pas quelque chose que moi je t'ai donné, que j'ai permis dans ta vie. Vas-y, dis-moi. Ah ben, alors j'attends. Peut-être vous êtes intelligent. Vous avez beaucoup travaillé pour le devenir. Non. Dès la maternelle, ben, ça marchait bien. Comme ça. Vous êtes doué en musique. Vous ne savez pas d'où c'est venu, mais c'est comme ça. Vous avez une belle voix. Et vous allez pouvoir l'exploiter. Et on est fiers de sa belle voix. Voilà. Ben, oui, on peut l'améliorer avec du travail, de chant, etc. On peut exploiter le don, on peut exploiter le talent, on peut l'améliorer, etc. Mais c'est quelque chose qu'on a reçu. La beauté physique, alors, là, il y en a, et surtout à l'adolescence, plus tard aussi, on est un but de soi si on est beau, on est là, et on méprise les moches, et les laides, et les laids, et les gros, et les petits. On va faire le club des récriminations. Mais oui, mais la beauté physique, ça c'est la génétique, on y est pour quoi? On n'y est pour rien, et on fait le glorieux et le fier, et on se prend pour quelqu'un, et ça devient synonyme de notre valeur. Je vaux quelque chose puisque je suis beau. Je vaux quelque chose puisque je suis intelligent. Je vaux quelque chose puisque je suis doué en musique, etc. J'ai de la valeur. Waouh, pas mal le gars, pas mal la fille. Et à contrario, on peut se sentir nul parce qu'on est petit, gros, moche, bête. Et comme je disais, comme rajoutait Coluche, noir, hein, il a fait un sketch très intéressant sur ça, en disant Dieu a dit tous les hommes seront égaux, mais il y aura des petits, il y aura des grands, il y aura des gros, il y aura des maigres, il y aura des noirs, il y aura des blancs. Et pour les noirs, les gros, les moches et les bêtes, ça sera dur. Et c'est vrai, Dieu n'a pas dit on est tous égaux, vous allez tous avoir une santé de fer. Non, il y a des gens qui naissent avec des santé mauvaises, avec des malformations, comme hein, on a dit ce matin, ben voilà, la fille de Philip Barnes par exemple, et ben elle a une maladie génétique qui atteint le système nerveux et qui risque finalement de la rendre entre guillemets bête. Passez-moi l'expression, mais de diminuer ses facultés mentales à cause d'une maladie génétique. Voilà, voilà. Est-ce que ça, c'est l'égalité dans comment on part dans la vie? Et donc, qu'as-tu connu et reçu? J'aimerais donc donner cette comparaison de notre vie. Paul la compare à une course, à un parcours. Et on pourrait dire, mais notre âme, Dieu a mis notre âme avec un corps. Et ce corps a des facultés physiques, intellectuelles, psychiques, psychologiques, etc. Ça, c'est notre équipement. Et on pourrait le comparer à une grande course que Dieu met en place, grande course de voiture. Sauf qu'à chacun, personne n'a la même voiture. Il dit, voilà, on va faire une course, la course de la vie. Et vous êtes des pilotes. Et le pilote, c'est notre âme. Et il nous donne un véhicule unique, spécifique, personnalisé. Et est-ce que ça équivaut à notre valeur de pilote? Non. Alain, il va dire, tiens, toi, je te donne une Porsche. Toi, je te donne une Lada. Et toi, quoi, une Trabane de chevaux. Alors, tous les véhicules n'ont pas les mêmes capacités de vitesse, d'endurance, de solidité, de fiabilité, de capacité à freiner, à éviter, enfin, de maniement, tout ça. Il y en a des performants, il y en a des moins performants, il y en a, c'est vraiment des brouettes. Il y en a, c'est des véhicules, alors là, ils ont aucune option. Puis il y a des véhicules toute option, avec intérieur cuir. Et clim. Alors c'est pratique, hein, le parcours est plus confortable dans la vie. Et il n'y en a pas du tout. Il y en a, ils ont des fuites d'huile dans le moteur. Il y en a, ils ont du mal à démarrer. Il faut aller à la manivelle comme avant, là. Etc. Et Christiane nous parlait de Suzette. Et prenons Suzette. C'est une âme dans un corps. Mais un corps handicapé. Est-ce que c'est sa valeur? Bonne question, n'est-ce pas? Non, c'est le véhicule, c'est le corps, l'enveloppe terrestre que Dieu, parce que rien ne lui échappe. Attention, ce n'est pas des accidents tout ça. Dieu est souverain. Donc il n'y a pas d'accident dans l'équipement que Dieu nous donne. Et donc, si nous lisons en 1 Corinthiens 15, bon je vais vous le lire parce qu'alors vous ça va être difficile. 1 Corinthiens 15, au verset 42, il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Le corps que nous avons, les facultés que nous avons, l'équipement que nous avons aujourd'hui sur terre, ça ne sera plus du tout le même à la résurrection des morts. Au ciel, lorsque Dieu nous redonnera des corps glorieux, nous n'aurons plus le même véhicule. Voilà. Et prenons l'exemple de Suzette, eh bien, ce corps terrestre que Dieu lui a donné, infirme, eh bien, ressuscitera plein de force, en pleine possession de ses moyens. Amen. Et donc, nous devons bien comprendre que l'équipement qu'on a n'est pas synonyme de notre valeur. C'est-à-dire que dans cette course que Dieu nous donne à vivre, il dit « qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Ça, c'est pour ceux qui ont reçu des Porsche Cayenne, des BMW, des Ferrari et tout ça. Et il dit « bon ben, t'as l'air de te prendre pour quelqu'un parce que tu roules dans une belle voiture. » Mais ta belle voiture, c'est pas toi qui l'as payée, c'est pas toi qui l'as choisie, c'est pas toi qui l'as construite. Je te l'ai donnée, t'es qu'un pilote, et à toi, je t'ai attribué cette voiture-là. Et donc, toi, tu confonds un petit peu ta valeur personnelle avec l'équipement terrestre que j'ai choisi de te donner. Et de la même façon, on peut avoir des handicaps. On peut avoir un quotient intellectuel à 75, c'est pas beaucoup, je crois. Mais ça, c'est un équipement terrestre. Ce n'est pas notre valeur de pilote. Le pilote, il est dans un corps avec des facultés qui sont ce qu'elles sont parce que Dieu, exactement, a fait chacun différent. Et nous voyons cet équipement, par exemple, en Jean 9, avec l'aveugle de naissance. Il était aveugle de naissance et les disciples disent, bon, mais qui c'est qui a péché? C'est ses parents ou c'est lui? Et Jésus dit, non, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Et pourtant, c'était son équipement. Pendant toutes ces années, il y avait un équipement de handicapé. Est-ce que c'était synonyme de sa valeur, de son péché, du fait qu'il est nul? Non. Dieu dit non, c'est un équipement que j'avais donné pour un but précis. Et j'aimerais, à ce titre-là, vous faire remarquer deux choses. L'équipement terrestre de Jésus-Christ, parce que Dieu s'est fait chair, il a pris un corps. Mais quel équipement il a pris? Ni beauté ni éclat. On le trouve en Ésaïe 53. Mais il n'a pas roulé en Porsche. En Ésaïe 53, on lit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et donc, du coup, il était comment? Méprisé et abandonné des hommes, parce qu'on méprise et on abandonne ceux qui, humainement, n'ont pas de valeur. C'est-à-dire n'ont pas le bel équipement. Et maintenant, j'aimerais vous emmener en Ézéchiel 28, un texte qui, au-delà du roi de Tyr, nous parle sans doute de Satan, de ce chérubin. Alors Ézéchiel, je trouve ça, Ézéchiel chapitre 28, écoutez un petit peu l'équipement, parce que c'est une créature, donc toute créature, même si elle est spirituelle, a un équipement. Ézéchiel 28, à partir du verset 12, il lui dit, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Voyez le talent? Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Écoutez bien ça. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Pourtant, pour Dieu, ce n'est pas l'équipement qu'il nous donne, ça c'est lui qui décide quel équipement il donne. L'important, c'est de courir la course. Et Dieu nous juge en tant que pilote. Et il dit à Satan, tu as été intègre depuis le jour où tu as été créé. Belle course. Jusqu'au jour où, ben là, dans ta course, tu t'es complètement planté. En tant que pilote, là, tu as péché. Et là, tu as été un pilote que je condamne. Et Christ dans tout ça. Vous voyez la différence entre Satan qui était lumineux, qui était beau, qui avait des talents à n'en plus finir, extraordinaires, sans doute la plus belle créature. Sauf que il a fini par prendre son équipement pour sa propre valeur. Il a fini par se dire, mais je suis quelqu'un, j'ai de la valeur, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis précieux, je suis quand même, je suis pas un nul, hein. Je suis tellement beau, je crois même que je suis aussi beau que Dieu, et pourquoi pas je pourrais l'être davantage que lui, et puis il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Là, il a confondu son équipement avec sa valeur personnelle, intrinsèque de pilote. Et Christ, bien n'avait ni beauté, ni éclat, ni talent, je veux dire. Sauf que, il a été, avec l'équipement qu'il a eu, un pilote parfait. Un pilote qui, avec l'enveloppe terrestre que Dieu avait décidé de lui donner, il a accompli une course sans faute et au-delà. Si bien que nous sommes invités à marcher comme il a marché lui-même. C'est-à-dire à être des pilotes fidèles. Pourquoi pilotes? Eh bien, si on reprend 1 Corinthiens 4, on est appelé des dispensateurs, c'est le mot économe, ou gestionnaire. Nous sommes des gestionnaires de l'équipement que Dieu nous a confié. C'est-à-dire, nous sommes une âme gestionnaire, responsable, qui doit donc administrer l'équipement terrestre que Dieu nous a donné. Et cet équipement peut être plein de talents, plein de dons, plein de capacités, ou au contraire, ça peut être un équipement plutôt dans le côté handicap. Et dans l'un comme dans l'autre cas, Dieu nous dit, eh bien toi, la course que je te donne et le pilote que je vais juger et jauger et récompenser, parce que chacun recevra la louange qui lui sera due, elle sera en fonction de notre pilotage, de comment nous avons été des administrateurs fidèles. Ce qui compte pour Dieu, c'est que nous soyons des économes, des administrateurs, des gestionnaires fidèles de ce qu'il nous a confié. Et de ce qu'il nous a confié comme talent ou de ce qu'il nous a confié comme handicap. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on peut comparer notre vie donc à une course de voiture, où Dieu dit, ben voilà, vous allez tous avoir un véhicule différent. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, non seulement vous avez tous des véhicules différents, mais en plus, vous allez tous avoir un parcours différent. Ce n'est pas un parcours le même pour tout le monde. Alors voilà. D'abord, on n'a pas le même bagage, ni physique, ni en santé, ni intellectuellement, ni dans les talents, ni dans les dons, ni etc. Et en plus, on n'a pas le même parcours. Qu'est-ce que c'est le parcours? Ben, c'est peut-être le pays où vous êtes né, la famille dans laquelle vous êtes né. Et tout ça, ça compte, hein. Si on est né dans une famille chrétienne, et ben, c'est pas le même parcours que si on n'est pas né dans une famille chrétienne. Si on a eu des parents qui ont pris soin de nous, qui ont été aimants, ce n'est pas le même parcours que si on a eu des parents ou pas de parents, ou des parents blessants, ou des parents, etc., abusifs. Si on a subi des traumatismes, si on n'en a pas subi, etc. Toutes nos expériences de vie font partie d'un parcours. Et dans le parcours que Dieu donne, ben, il y en a qui ont des parcours où on dirait que c'est une autoroute toute leur vie. Alors non seulement ils roulent en Porsche Cayenne, mais en plus c'est une autoroute, quoi. Et puis il y en a d'autres, ils roulent en deux chevaux et ils ont des ravins et en plus il y a des attaques terroristes. On dit, mais c'est quoi ce truc là? On n'a pas le même parcours. Du coup, le problème de l'estime de soi n'a pas lieu d'être en fait. Parce que notre problème d'estime de soi, c'est je pleure quand j'ai une voiture pourrie, ou quand j'ai un parcours pourri, parce que je pense que mon parcours est synonyme de ma valeur, et puis je fais le fier si j'ai un beau véhicule, un bel équipement, parce que je crois que c'est ma valeur. Alors, ce n'est pas tout à fait exactement comme ça, comme je le disais en introduction, on peut avoir une très belle voiture aussi et se dévaloriser, on y reviendra. Donc, ce n'est pas toujours synonyme, attention, hein. Mais souvent c'est le cas. Sauf que Dieu n'a pas dit, tiens telle âme, Adrien frère, je pense que c'est un pilote de valeur, donc je vais lui donner une voiture de valeur. Et puis Tim, je pense que c'est un pilote pas terrible, donc il vaut mieux lui confier un véhicule pas terrible. Je te vexe pas, bon papa. Bien. Non, c'est pas du tout ça que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit à pilote de valeur, voiture de valeur, à pilote nul, voiture nulle. Il a plutôt même dit le contraire, quelque part. Et j'aimerais vous inviter à lire en 1 Corinthiens 1, au verset 26, pour ceux qui ont une lampe, là c'est même pas pour ceux qui ont une Bible, hein, c'est pour ceux qui ont une lampe. Considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Alors là, ça nous parle des talents, des capacités ou des parcours. Hein, souvent on est noble à cause de notre famille, par hérédité, mais on est souvent sage en fonction des talents plutôt, de l'équipement. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est bien là la question. Ce fameux sentiment d'estime de soi, de notre recherche de valeur personnelle. Sinon, le principe, on va dire, général de Dieu, c'est de se glorifier à travers des véhicules minables qui ont des parcours super compliqués, dont personne ne voudrait. Effectivement, parce que là, dans ce que Dieu va accomplir dans le cœur du pilote, et dans ce que le pilote va donc, par la grâce de Dieu, pouvoir accomplir comme parcours, en dépit des attaques terroristes, en dépit des éboulements de terrain, en dépit de son moteur qui fuit, en dépit de son joint de culasse qui lâche et qu'il faut remplacer, etc. Bien, Dieu va pouvoir se glorifier dans un tel pilote à cause de ce qu'il va faire dans son cœur. Et donc, si on se dit, ben moi, j'ai pas de talent, je suis nul, j'ai pas de don, et puis j'ai eu un parcours vraiment minable. Donc Dieu m'a mis dans une course là, c'est même pas la peine que je commence parce que les autres, ils roulent en Porsche Cayenne, ils ont une autoroute. Je vais arriver dernier, ça c'est sûr. Ben je reste sur le... Ben je reste sur le bas-côté quoi. J'attends que la course soit terminée et puis on verra bien. Non. Et c'est là où j'aimerais donner une première raison pourquoi est-ce que Dieu a fait cela. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé que les êtres humains, dans leur vie, n'auraient ni le même équipement, ni le même parcours. Et des fois on dit, mais c'est super injuste ça. Pourquoi il y en a qui ont des parcours faciles et d'autres non? Pourquoi il y en a qui ont plein de talents et d'autres non? Et une première raison, c'est pour que nous ne puissions pas nous comparer. On ne peut pas nous comparer. Parce que dans une course, vous ne pouvez pas, celui qui a une BMW et celui qui roule en deux chevaux, eh bien si c'est une course de vitesse, on ne peut pas comparer la performance. On peut essayer de regarder la valeur du pilote. Mais le résultat, normalement, il est connu d'avance. La deux chevaux va arriver plus tard. Normalement. Bon, il y a des miracles, hein, mais... mais je veux dire, comme ça, c'est comme ça. Et donc, on ne peut pas se comparer les uns aux autres. Pour deux raisons, on n'a pas le même équipement, on n'a pas le même parcours. Qu'est-ce que vous voulez comparer? Et voilà pourquoi on peut lire ce verset, en Philippiens 2, verset 3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et moi, je dis, c'est un verset que j'ai jamais compris. Parce que, franchement, il n'y a pas photo entre une Ferrari et puis une Lada, voilà. Vous avez beau être la personne la plus humble du monde, vous vous dites, ben, je veux bien être humble, mais je suis... Vous voulez que je vous dise la Ferrari, elle est plus, quoi. C'est une technique, c'est une finesse, et voilà, ça serait de la mauvaise foi et ça serait un peu absurde de dire, ben ouais, bon, je vais considérer que la Lada est quand même meilleure par humilité. Donc j'adopte ce point de vue, tu dis, tu as une Lada, je pense qu'elle est vraiment supérieure à ma Ferrari. Et dans nos parcours. Alors, comment, de ce point de vue-là, comment est-ce qu'on peut vraiment faire ce que Dieu nous dit et dire que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même? Si on regarde nos équipements, c'est pas possible. Si on regarde la valeur de nos parcours et de nos résultats et de nos réussites, on peut pas, sauf on fait semblant, c'est tout. Sauf quand on comprend que notre valeur de pilote n'est ni dans l'équipement, ni dans le parcours, et donc pas dans la réussite. Alors comment est-ce que l'humilité peut me faire regarder les autres comme au-dessus de moi-même? Eh bien tout simplement en disant, attention, attention, si j'avais leur quotient intellectuel, si j'avais la malformation physique qu'il a, et puis dans mon parcours, si j'avais eu des parents alcooliques comme les siens, et puis si j'avais été violé à tel âge, et puis si ceci, et puis si cela, j'en serais où aujourd'hui? Comment est-ce que moi j'aurais piloté ce véhicule et ce parcours? Pas dire. Qui d'entre nous peut se mettre à la place de l'autre et entièrement dire, ouais non, moi je vois bien quel véhicule il a, quel parcours il a, moi je suis certain que si j'avais été à sa place, j'aurais été meilleur pilote. Et voilà pourquoi Paul dit, mais je veux pas que vous me jugiez. Vous me comparez à Apollos, etc. Est-ce que mais votre jugement, je m'en moque, vous n'avez pas à me juger en tant que pilote. Et il dit, je ne me juge pas non plus moi-même, parce que même moi, je ne peux pas juger quelle est ma valeur de pilote. Je ne sais pas. Et Dieu ne me demande pas de savoir. C'est lui qui me dira, c'est bien. Ou, ben, comme on l'a vu, hein, tribunal de Christ, mauvais dispensateur, là. Chacun recevra la louange qui lui sera due. Et Paul donc dit, je me juge pas non plus moi-même, parce que je ne me sens coupable de rien, c'est-à-dire qu'il s'agit de nous examiner, est-ce que je pense être un gestionnaire, un administrateur fidèle. Et là, on a des critères dans la parole pour nous dire, ben non, là, je vois clairement quand je conduis de telle manière et que je vais dans tel parcours, là, c'est clair que je ne suis pas un bon administrateur de ce que Dieu m'a confié. Donc, je ne suis pas fidèle. Il faut rectifier le tir dans mon pilotage. Mais on peut aussi dans notre pilotage dire, bon, mais de ce que je connais, ma conscience me dit que, a priori, je pilote fidèlement, mais je ne vais pas quand même en tirer de conclusion, dire je suis un bon pilote. Je laisse ça au Seigneur. Tout ce qui m'importe, c'est de chercher à être un pilote qui honore Dieu et qui est fidèle. Alors, du coup, nous ne pouvons pas nous comparer les uns aux autres. Parce que quand on n'a pas ni les mêmes talents, ni les mêmes handicaps, ni le même parcours, qu'est-ce que vous voulez qu'on se compare? Et là, j'aimerais ajouter un point qui, pour moi, est très important. Même dans notre stature et nos progrès spirituels et notre vécu, on ne peut pas se comparer. Et trop souvent, on va dire, tel chrétien, il s'est éloigné du Seigneur, il a chuté dans tel péché, ou alors, qu'est-ce qu'il lutte avec tel problème et tel truc, c'est pas normal, quand même, moi, à sa place, puis je connais quelqu'un qui était dans la même situation, et puis on compare. Vous voyez, on cherche à trouver quelqu'un qui a une voiture à peu près pareille, avec un parcours à peu près pareil, et on veut comparer les pilotes. Et Dieu dit, ça, c'est pas notre problème. Et j'aimerais voir juste un texte avec vous sur ce sujet, c'est 1 Corinthiens 7, c'est sur le sujet de la capacité à vivre le célibat, et Paul va dire, ben, il y en a qui ont reçu de Dieu ce don-là, et il y en a d'autres, ben non, vivre le célibat pour eux, ils brûlent, et c'est un combat spirituel. Alors nous, on dirait quand même, normalement, t'es célibataire, je comprends pas, tel chrétien, il est chrétien, et pourtant il est célibataire, et pourtant, quand même, il lutte avec les pensées impures, il lutte avec la pornographie, il lutte avec la masturbation, il lutte... C'est quand même grave, tout ça. Moi, je connais quelqu'un, il est célibataire, et tout va bien. C'est un meilleur chrétien. C'est un meilleur chrétien. Et Paul dit non. Il dit, chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Eh bien, même dans des domaines comme ça, là il est en train de nous dire, attention, ne jugez de rien, on n'a pas là non plus le même équipement. Tu connais tel chrétien qui vit très bien son célibat ? Est-ce qu'il est victorieux ? En Jésus-Christ. Non, parce qu'il n'y a pas de combat. On est victorieux que quand il y a un combat. Là, c'est un chrétien pour qui il n'y a pas de combat, tout se passe bien. Il n'a pas de lutte à ce sujet-là, c'est naturel. Et Paul dit, il tient un don particulier. Pour lui, ce n'est pas un souci. Mais un autre, il n'est pas fait du même bois. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Il ne tient pas ce don-là de cette manière-là. Et pour lui, c'est un combat. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'un célibataire chrétien, ça lui donne une excuse de sombrer dans la débauche. Pas du tout. Mais pour lui, c'est un combat, et il doit donc s'approprier la victoire de Jésus-Christ sur ce sujet-là. Voilà. Et donc, c'est quelque chose au cœur de son cœur. Si vous voulez. Alors qu'un autre célibataire, pour lui, la question ne se pose même pas. Et c'est vrai, ben parfois il peut y avoir des chutes. Et voilà pourquoi Paul dit, bon, ben, il vaut mieux se marier que de brûler. Et parfois on va dire, bon, ben, tel chrétien, il a eu telle épreuve, il a sombré dans la dépression, s'il était vraiment chrétien, si... Mais on n'est pas fait pareil. Et quand il dit, l'un tient un don d'une manière et l'autre d'une autre, bon, ben, c'est pour le célibat, et bien on n'est pas fait pareil. Est-ce que je peux juger? Dire c'est pas normal, moi je suis pas tombé dans la dépression, mais oui, mais toi, comme on dit, t'as peut-être pas un terrain à la dépression. Mais t'as peut-être un terrain au refoulement, t'as peut-être un terrain à la fuite ou à la compensation dans autre chose, et tu vas compenser ça en te mettant dans le travail à fond, et bon, chacun va réagir différemment, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas le même équipement. Et donc, même dans les domaines des progrès spirituels, Dieu ne nous permet pas de nous jauger en tant que pilote. Ça ne signifie pas qu'il ne nous permet pas de dire la façon dont tu pilotes actuellement, c'est un péché. Ça, on peut le dire. Il dit, écoute, là, tu es dans le péché. C'est comme Tim nous parlait de son exemple de discipline d'église, quelqu'un qui vivait donc en concubinage, c'est ça ? Bon, et qui a été repris, etc. Bon. Eh bien, à un moment, on dit, ben, écoute, la façon dont tu pilotes, Dieu l'appelle péché, et on va devoir discipliner bibliquement. Maintenant, ça ne signifie pas que Tim, dans son fort intérieur, dise ce frère, quel mauvais pilote, c'est un mauvais chrétien, moi, à sa place, je n'aurais pas fait comme ça, moi, c'est quand même pas, franchement, il n'est pas, voyez, on ne peut pas dire ça. Ça, seul Dieu donnera la louange, la rétribution de toute chose. Et on peut, on doit dire, bah, écoute, cette façon de piloter, Dieu n'en veut pas. Mais non, le fait que actuellement tu aies tel parcours, écoute, j'ai pas eu ta vie. Je suis pas dans ta peau. Je sais pas ce que tu as vécu. Ce ne sont pas non plus des excuses. Mais c'est pas à nous d'avoir ce sentiment un petit peu de jauger le pilote en face de nous. Donc, nous ne pouvons pas nous comparer. Et voilà pourquoi dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même. C'est-à-dire que, ici, l'humilité, c'est en quelque sorte la prudence de dire, je ne sais pas quel est son équipement, ni son parcours. À vue d'œil comme ça, sa performance n'est pas fameuse. Mais quel véhicule, avec quel véhicule le parcourt-il? Je ne sais pas. Est-ce que moi je ferais mieux? Vous savez, à l'école, on note la performance. On donne un contrôle et vous avez 20 si vous avez tout réussi. Performance, on atteint un niveau. Et on ne note pas le progrès. Alors que, et donc c'est forcément toujours les mêmes, grosso modo, qui ont toujours les meilleures notes, et les mêmes qui rament, à un moment ou à un autre. Hein. Après, il y a des petites exceptions, mais globalement, ça reste comme ça. Les bons restent bons, et les mauvais restent mauvais. La plupart du temps. Mais on ne note pas le progrès. Et ça aurait un tout autre sens que de noter le progrès. Tu es parti de là, tu as travaillé, tu as piloté, tu as fait des efforts, etc. Waouh, tu es quand même arrivé là. Ça vaut 20. Ah ouais, mais pourtant ma performance, je suis en retard par rapport aux autres. Ouais, mais attends, tu as vu le progrès. Alors que celui qui, il n'a même pas eu besoin de travailler chez lui, il a déjà tout compris. Ben, il a 20. Mais si on note le progrès, le pilotage, c'est zéro. Où est l'effort? Où est le pilotage? Il n'y en a pas. On dit, on se repose sur ses lauriers. Mais Dieu, il va pas noter comme ça. Dieu, il va noter le pilotage. Il va noter le progrès. Et il sait exactement, pour chacun de vous, comment vous êtes fait, quels sont vos talents, vos capacités et vos handicaps, et puis quel est votre parcours, et en fonction de ça, il va noter. Vous voyez? Et même dans une même famille, on peut avoir des grandes différences. Moi, pour ma part, j'estime avoir eu un parcours facile. J'étais content de mon enfance, ça se passait bien, mes parents sympathiques, je dis pas ça parce que maman est là, mais bien passé. On n'était pas, on avait des super vacances, je crois qu'on avait pas mal d'argent, on était, bon, parcours confortable. Bon, j'ai perdu mon papa à 15 ans, le petit, mais je veux dire, quand je considère ce parcours, je dis pas, j'ai eu un parcours plein de blessures, plein d'attaques terroristes et plein de tout ça. Non. Vous prenez mon frère, ben en fait, c'est mon demi-frère déjà. Et donc, c'est plus déjà la même situation. Sa maman était alcoolique. Quand il est reparti vivre avec elle, c'était pas génial, hein. Etc., etc. Puis dans son parcours, quand il a eu... Moi, j'ai des enfants en bonne santé, une femme extraordinaire. Bon. Non, mais... Eh bien, lui, il a eu une fille avec une malformation cardiaque et elle aura besoin d'une greffe du cœur. Tout ça, c'est des épreuves. Comment on les vit, tout ça? Vous voyez ce que je veux dire dans le parcours? Comment on réagit à tout ça? Moi, j'aimerais pas avoir son parcours. J'aimerais pas avoir le parcours de ma mère. Voilà. Et je suis bien content que ce soit elle qui l'ait eu et pas moi. mais Dieu aurait pu me le donner à moi plutôt qu'à elle. Voilà. Ça, c'est sa souveraineté, c'est son choix. Sauf que Dieu va nous dire, attends, hé, je sais d'où tu es parti là. Je sais quel parcours je t'ai donné. Et donc, en Luc 12, verset 48, on l'a déjà cité cette semaine. Luc 12, il dit, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Ça veut dire que si on a un bel équipement et un parcours favorisé, oh ben forcément ça peut aller bien. Ça peut. Mais il n'y a absolument aucune raison d'être satisfait. Parce que Dieu nous demande de gérer ça. Il dit, attends, hey, fais gaffe à toi. Je t'ai donné un parcours, je t'ai donné un équipement, mais c'est pas pour que tu fasses le beau, c'est pas pour que tu sois content de toi et que tout va bien. Je prends un simple exemple. Pour moi, ça n'a jamais été une lutte de venir le dimanche matin à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai toujours appris à venir le dimanche matin à l'église. Et puis, je ne me suis jamais posé la question, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de dire, ah franchement, j'aimerais bien peut-être, qu'est-ce que ça serait peut-être bien de dormir un peu plus. Bon, ça n'a jamais été un combat. Et pourtant, ce n'est pas une victoire spirituelle parce que ça a été comme ça. Voilà. Eh bien, il y a des gens, je vais être un peu prêt à m'irriter contre eux dans l'église. Franchement, ils m'énervent, cela, c'est pas possible. Ils ratent un dimanche sur deux, qu'est-ce que c'est que ces chrétiens-là et tout. Ouais, mais pour eux, c'est un combat. Pour moi, ça ne l'a jamais été. Voilà. Et c'est pas parce que je suis spirituel. C'est ça la différence. C'est parce que, comme le célibat, hein, dans l'exemple de l'apôtre Paul, moi, mais pour l'autre, c'est différent. Et je peux l'encourager, je peux lui montrer ce que Dieu aimerait, comment il aimerait qu'il pilote. Mais dans mon fort intérieur, Dieu m'interdit de juger le pilote et de me comparer. Donc, j'aimerais que nous retenions donc que, surtout, ne confondons pas notre valeur avec notre équipement et notre parcours. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est la pensée du monde. Si t'es beau, si t'es riche, si t'as eu de la réussite, si... Voilà. Tu vaux quelque chose, t'es quelqu'un. Et puis, si t'as le nez tordu, et que ceci, et que cela, et que t'es bête, et que... T'as pas beaucoup de valeur. Et on peut en souffrir, si je suis nul. Mais ça n'a rien à voir. Et je crois que Dieu nous invite tout simplement à dire, prendre conscience, ça n'a rien à voir avec la sauce, quoi. Donc ne cherche pas ton estime de toi-même, etc. Prends conscience que je t'ai donné un équipement et un parcours, et au ciel, tout ça, ça sera terminé. On ressuscitera avec des corps glorieux. C'est pas trop ce qui nous attend là-haut, mais notre équipement et notre parcours, Dieu va totalement en prendre compte pour nous juger, estimer notre parcours, notre marche. Et ce qui compte, c'est notre âme en tant que pilote. Donc, si vous vous sentez un peu nul et que vous êtes constamment en recherche de valeur et que vous faites les choses pour prouver, pour essayer de vous prouver que vous avez de la valeur, vraiment prenez conscience que l'équipement que Dieu a donné, c'est pas votre valeur. La valeur, elle est ailleurs, et même nous, on n'est pas capable de la juger et de dire elle est bien, elle est mauvaise. Ça, c'est Dieu qui s'en occupera. La seule chose qui nous intéresse, c'est piloter avec ce que Dieu m'a donné et avec le parcours qu'il m'a imparti. Pour sa gloire. Et c'est tout. En me souvenant qu'il se glorifie par les choses qu'on méprise, par les choses viles. Et puis si on est plutôt satisfait, là c'est plutôt un avertissement, hein. Plutôt un avertissement, dire attention. Alors il y a aussi un avertissement parce que pour peut-être ceux qui se dévalorisent, parce que ce n'est pas une excuse de dire j'ai eu un parcours difficile, tout ça, un équipement, je reste sur le bas-côté, tant pis. C'est tellement dommage. Dieu dit non. C'est dans l'infirmité que ma puissance s'accomplit. C'est dans la faiblesse. Et bien là, ma puissance s'accomplit. Et je veux démontrer et faire éclater ma puissance dans ta vie, malgré ton équipement, et justement à cause de cet équipement peut-être un peu défectueux, ou de ton parcours blessant et handicapant de ta vie. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous a donné finalement une course avec un véhicule et un parcours différent à tous. Première raison, c'était pour ne pas se comparer, surtout pas, et prendre bien conscience que ça n'a, ça ne tient, c'est absurde, voilà. Débile de vouloir se comparer. Deuxième raison, c'est qu'on puisse se servir les uns les autres. Et ça, il explique toujours en Corinthiens avec cette image du corps. Et il a placé chacun des membres comme il a voulu. Alors il y en a qui disent, ah ben moi je trouve que ce membre-là il est plus beau, plus talentueux, plus en vue, plus... Pourquoi je suis le petit orteil? Pourquoi... Dieu place chacun pour qu'on se serve les uns les autres, chacun avec une utilité. Et je dirais que dans notre course, donc pour continuer l'exemple, on n'est même pas tous des voitures. Il y en a qui sont des camions, il y en a qui sont des tracteurs, il y en a qui sont des 4x4, il y en a qui sont des bicyclettes. Voilà. Mais chacun a une fonction particulière. Parce que quand il faut déménager le copain, si vous venez avec votre décapotable de place, ça fait un peu juste pour entrer les meubles. C'est pas adapté. Là, il faut un camion et on est content d'avoir des camions. Quand il faut franchir un chemin pierreux et passer la rivière, on est content d'avoir un 4x4. Et puis quand il n'y a plus d'essence, on est content d'avoir une bicyclette. N'est-ce pas? Donc, je veux dire, et la parole de Dieu nous le dit, nous sommes serviteurs les uns des autres. Et d'ailleurs, en 1 Pierre 4, verset 10, il reprend ces deux expressions de bon dispensateur, de bon gestionnaire. 1 Pierre 4, verset 10, comme de bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. Là, Dieu nous dit, quel que soit votre équipement, je vous donne quand même quelque chose qui va pouvoir être utile aux autres. Je vous ai donné quelque chose qui vous pourrez tous mettre au service de l'autre quelque chose. Faites-le. Nous mettre au service les uns des autres, ça c'est la deuxième raison pourquoi nous avons des parcours différents. Et Tim le disait, nos parcours, bien, prenez l'exemple de son frère qui avait perdu un enfant, son parcours a été différent d'un autre pasteur, voilà, tous les pasteurs n'ont pas perdu un enfant. Mais Pierre en a perdu un et il a pu aider ceux qui en avaient perdu un. Un parcours différent qui puisse être utile à d'autres. Et Dieu veut que notre équipement, donc nos talents, bon, tout ça, plus notre parcours, les deux, soient mis au service des autres. Et si on a eu un parcours difficile, il est évident qu'on saura de quoi on parle, quoi. Pour pouvoir venir en aide à ceux qui ont un parcours difficile. Et puis, ceux qui n'ont pas forcément eu un parcours difficile et qui ont des talents, tout ça, vous savez, si on conduit en grande pompe et à toute allure, moi je suis arrivé premier, tout ça, c'est-à-dire, mais c'est pas le parcours que je voulais en fait. Moi j'aurais aimé que tu sois un pilote qui T'as pas remarqué que l'autre, il avait crevé là sur le bas-côté de la route, tu pouvais pas lui donner un coup de main pour changer sa roue? T'as pas vu celui qui t'embourbait, tu pouvais pas accrocher une corde et le sortir de là? Oh ben non, moi j'ai foncé tout droit, ça roulait bien pour moi, donc tant mieux quoi. Ben oui, mais non. Je t'avais pas donné cet équipement et ce parcours pour que tu roules tout droit pour toi, ça roule bien pour moi. J'avais donné pour que tu te mettes au service des autres en fait. Et tu l'as pas fait. Donc, vraiment, qu'on puisse prendre conscience de tout cela. Tout vient de Dieu. Et même nos progrès spirituels. Vous savez, la Bible, elle est complexe sur ce sujet-là, de dire qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient de nous. On l'a encore lu, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Oh ben mince alors. C'est Dieu qui accomplit en nous notre sanctification. Alors on sent bien que on n'est pas non plus des marionnettes. Il y a quelque chose qui tient du pilote, mais Dieu nous dit, attention, je te rappelle que quand même, tout vient de moi, parce que sinon tu risques de te glorifier. Donc, même là où on en est spirituellement, on ne peut pas dire je suis quelqu'un de bien, je suis un bon pilote. Parce que j'ai fait tel progrès spirituel. Les progrès peuvent être tout à fait vrais, mais là encore, Dieu nous dit, écoute, c'est parce que je t'ai éclairé, j'aurais pu ne pas le faire. C'est parce que j'ai mis ma main et c'est pas forcément parce que tu as été bien. C'est, tout ça, ça se mesure pas. On peut rien affirmer là-dessus. La seule chose qu'on peut faire, c'est dire, Seigneur, je veux simplement être fidèle et ne pas m'occuper de ma valeur. Ma valeur, c'est toi qui me la donneras. Ma valeur, elle n'est pas nulle dans mon équipement et à cause de tout ça. Mais ne roulons pas non plus les mécaniques. Ben, ni en bien, ni en mal, je ne me juge pas moi-même. J'avance dans ma course en étant pour Dieu ce gestionnaire, cet économe fidèle. Pour terminer, peut-être petite application. Par exemple, sur l'éducation des enfants. En tant que parent, c'est vrai que le monde, et nous naturellement, notre chair charnellement, on est quand même poussé à avoir des attentes sur nos enfants, de réussite scolaire, d'être doué en ceci, d'être doué. Et quelque part, quand c'est le cas, on éprouve un peu de contentement, de satisfaction, de fierté. Et puis quand ils rament à l'école, on est un peu honteux. Quand ils sont un peu malhabiles, on est un petit peu comme si c'était notre valeur de parent, vous savez. On est des gros nuls, et puis c'est un gros nul mon enfant, il me renvoie ça comme image. Et on se sent un peu humilié, un peu. Et du coup, ça peut nous amener à être dur avec eux, ou à avoir de l'impatience, ou à. Et je parle en connaissance de cause, hein. Quand Émilie rame en maths, quelque part, ça me. C'est dur pour moi, qu'elle ne soit pas bonne en maths, par exemple. Eh ben, avant Dieu me dit, mais attends, il faut que tu acceptes que c'est l'équipement peut-être que moi je vais donner. Et c'est pas à toi de frapper du poing sur la table en disant, mais moi je veux absolument qu'elle soit comme ça. Pourquoi elle n'a pas une belle carrosserie? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas un moteur performant? Pourquoi? Vous voyez? Et dans nos attentes de parents, je crois qu'il faut être très vigilant sur ça. Parce qu'autrement, on peut faire du dégât dans la vie de nos enfants. On peut faire aussi beaucoup de dégâts en ayant toujours des attentes que les enfants n'atteignent jamais. C'est-à-dire qu'on aimerait, on est pour la performance, pour l'excellence, pour ceci, et on va tout prendre comme ça, c'est normal, si tu réussis, c'est normal. Et on ne va jamais les encourager et dire, bah, écoute, c'est bien. Bah, franchement, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Ah bon, mais pourtant, j'ai eu que 10 sur 20. Ouais, mais attends. Je suis franchement fier parce que tu as travaillé, tu as fait de ton mieux. Je l'ai vu. Tu as donné tout ce que tu pouvais, vraiment. Je suis fier pour ça. Ah bon, mais Ben ouais. Vraiment, c'est bien. J'attendais pas plus. Et d'ailleurs, ce qu'il peut faire, comme ça, qu'on peut avoir des gens très doués, mais qui se sentent nuls. Hein, non, on peut, ça, c'est nos attitudes de parents. En fonction de nos attentes sur les enfants, à ce niveau-là, on peut même avoir des enfants qui sont quand même doués, mais pour nous, ils ne le sont pas assez. Et du coup, on le leur transmet, et du coup, ils se sentiront souvent nuls. Et ça a besoin d'être réparé, dans ce sens-là, dire attention, c'est pas mon équipement. Dieu m'a donné le véhicule que j'ai, point barre, avec le parcours que j'ai, point barre. Et j'ai rien à prouver à personne, juste, j'ai besoin d'être un pilote fidèle. Avec nos enfants, justement, qu'est-ce que nous allons choisir de privilégier ? Est-ce que nous allons valoriser leur réussite, leur performance ? Ou est-ce que nous allons leur apprendre à être des bons gestionnaires fidèles pour Dieu ? Tu as du mal à l'école, tu n'es pas doué dans ça. Eh bien, tu sais, c'est que Dieu a choisi que tu ne sois pas doué comme ta sœur ou comme ton frère ou comme le voisin. Voilà. Et dans la famille, des fois, il y a des différences entre enfants. Nous, c'est le cas. C'est l'une de nos filles, on a que des filles, alors vous ne saurez pas laquelle, mais de nos filles qui nous dit, l'autre, elle est réussie, papa, pourquoi mais elle est meilleure que moi, et ça l'énerve. C'est blessant, elle réussit tout, et pourtant elle se foule pas. C'est pas parce qu'elle travaille. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut leur apprendre ? Ben, tu sais, le Seigneur, il lui a donné un équipement, et c'est pas elle, hein. Mais elle va devoir rendre des comptes. Elle va devoir piloter ça pour la gloire de Dieu. Hein. Dieu va lui a donné beaucoup, il va exiger beaucoup. Et toi, ben, c'est comme l'aveugle-né. Ben, écoute, si tu es moins doué là-dedans, Dieu te l'a donné pour regarder comment tu vas faire en tant que pilote vis-à-vis de ça. Est-ce que tu vas te lamenter ? Est-ce que tu vas t'apitoyer ? Est-ce que tu vas râler ? Est-ce que tu vas garder ta rancune contre Dieu ? Est-ce que tu vas te désoler toute ta vie ? Et est-ce que tu vas ne pas avancer ? Ou est-ce que tu vas dire, écoute, je suis comme je suis, je vais faire mon effort, je vais piloter pour plaire à Dieu, et je ne vais pas me décourager, et puis je vais le remercier, puis je vais... Ça sera aussi l'occasion d'expérimenter sa puissance. Tiens, je suis nul là-dedans. Je vais prier. Seigneur, franchement, tu as voulu que mon moteur il soit pas super là. Par contre, tu es le mécanicien. Seigneur, montre ta puissance dans ma vie. Je te demande du secours. Et on peut apprendre ça à nos enfants. Plutôt que de leur donner ce sentiment de satisfaction de soi parce que ils sont bons, ces petits, ils sont bien, ils sont... Ou alors d'insatisfaction parce que franchement, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. Et ça, c'est un piège. Hein. Et ça peut aller très loin hein. Dans le métier qu'on choisit. Vous avez des parents qui en veulent toute leur vie à leurs enfants parce qu'ils ont choisi tel métier, que ce n'est pas assez prestigieux, que ce n'est pas assez ceci, que ce n'est pas assez cela. Puis dernière application aussi, peut-être pour certains, c'est le choix d'un conjoint. Aussi, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que généralement, on choisit la carrosserie. On choisit la belle carrosserie. C'est ça qui frappe l'œil, là. Mais ça, c'est l'équipement. C'est pas le pilote. Et nous sommes invités parce que nous allons être dans un parcours parallèle, un moment qui va se joindre, on va marcher côte à côte. Le mariage, c'est ça, c'est une union. C'est deux véhicules qui vont traverser la vie côte à côte pour être une aide qui se correspond l'un à l'autre. Pour se secourir, pour construire, pour bâtir, pour travailler ensemble. Et là, Dieu nous invite plutôt à nous intéresser à l'âme. Celui qui pilote, est-ce que c'est un, est-ce qu'il me semble être, bon, on ne peut pas tout juger, hein, mais est-ce que, selon les critères bibliques, c'est un gestionnaire, il semble être plutôt un gestionnaire fidèle ou pas? Nous, on est plutôt à compter le véhicule et les options qu'il y a dessus. Alors il y a ceci, il y a cela, là il est doué là-dedans, là il me... pas mal, bon, ah, pas assez bien pour moi. Mais qu'en est-il du gestionnaire? Parce que en fait c'est la seule chose qui compte. Et Dieu nous éclairera pour dire, mais je crois que telle personne qui est un gestionnaire fidèle a aussi un véhicule et un parcours qui correspondrait bien au tien, ça irait bien ensemble ces deux-là. Mais ça, c'est lui qui va le donner. C'est pas à nous de calculer, de dire, bon, on va prendre, j'ai une BM, il faut qu'il ait une BM. Hein. Ça peut être le cas, mais ça, c'est le choix de Dieu. Dire ça, ça va correspondre. Mais dans d'autres situations, il dit, non, je crois que ça serait bien d'avoir un attelage là un peu différent. Les deux sont des gestionnaires qui me sont fidèles. Et ça va être super productif là de mettre un camion avec je sais pas quoi d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, chercher la volonté de Dieu dans ce sens-là. Mais ce qui compte, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et souvent, nous nous arrêtons dans notre choix d'un conjoint aux critères physiques, aux critères intellectuels, de réussite et de ceci, de cela, de talent, de parcours aussi. Vous savez, on peut être très très bête, hein. C'est un gitan, je ne l'épouse pas. Tout simplement, hein. Origine sociale, ça c'est le parcours. C'est tout. Hein, c'est très bon. Et c'est parce que Dieu nous appelle à vivre. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vraiment ça a encouragé chacun. Et puis en même temps, ça nous donne vraiment cet avertissement de pas nous apitoyer, de pas traîner en route ou de pas faire les fiers à bras et de pas finalement rechercher notre valeur. Et finalement, Dieu nous donne les moyens finalement ici de ne pas souffrir du problème de l'estime de soi. On n'a pas à en souffrir, ni en bien, ni en mal, ni en positif, ni en négatif. L'équipement qu'il nous a donné, c'est à travers ça qu'il veut se glorifier, et ce n'est pas synonyme de du pilote. Il faut bien séparer les deux choses. Prions. Seigneur, tu vois chacun d'entre nous ce soir, tu vois peut-être plusieurs qui, dans leur parcours jusqu'à présent, doutent de leur valeur, en souffrent, et cherche toujours quelque part à se rassurer et peut-être ont souffert peut-être des moqueries des autres, de mépris. Peut-être, Seigneur, tu vois ce sentiment à des degrés divers de se sentir nul. Et Seigneur, je veux vraiment te demander de guérir cela dans le cœur de chacun qui peut ressentir ce sentiment, parce que en faisant comprendre, Seigneur, que toi, tu n'es pas comme le monde. Et que tu nous dis, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu nous as équipés comme tu l'as voulu. Et je veux te demander pour que chacun puisse simplement accepter l'équipement que tu lui as fourni. Dire, Seigneur, tu m'as fait comme je suis. C'est l'équipement que tu m'as donné. Seigneur, je l'accepte. Et je considère que ce n'est pas synonyme de ce que je vaux à tes yeux. J'ai tel handicap, j'ai telle blessure, j'ai tel parcours. J'ai pas plein de talents. Mais c'est pas parce que je n'ai pas de valeur à tes yeux. Seigneur, c'est parce que tu veux regarder quel pilote je suis en dépit de ces handicaps. Et Seigneur, tu peux te glorifier à travers ma vie. Seigneur, nous voulons te demander pour ceux peut-être qui sont assez satisfaits d'eux-mêmes, au contraire. Que tu corriges le tir. Que tu fasses prendre conscience, comme pour ces Corinthiens, que il est absurde de se glorifier de quoi que ce soit, même de nos réussites spirituelles, même de nos progrès spirituels, parce que vraiment, on ne maîtrise absolument pas ce qui est notre part et ce qui est la tienne. Ce qui vient du don que tu nous as donné d'une manière ou d'une autre, ou pas. Et, Seigneur, nous sommes heureux de ce que c'est toi qui au ciel nous accueilleras pour évaluer justement notre course en toute connaissance de cause. Seigneur, nous voulons te demander ton secours pour être des pilotes fidèles pour toi, des gestionnaires de ce que tu nous as confié. Ne pas regarder notre parcours comme un handicap ou comme synonyme de notre valeur, et comme Paul dire, ce qu'avant je considérais comme un gain, maintenant je regarde comme une perte. Ça n'a pas de valeur. Seigneur, je veux te prier aussi pour que vraiment tu nous apprennes à considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Avoir cette humilité de dire, il est là où il en est, même spirituellement, même, mais je ne suis pas dans sa peau. Je ne connais pas son équipement, je ne connais pas son parcours, j'aurais certainement fait pire. Et Seigneur, apprends-nous cette humilité de dire, je crois que j'aurais pas fait mieux. Je crois que certainement j'aurais fait moins bien. Rends-nous vraiment conscients que nous ne pouvons pas nous comparer. Tu as fait en sorte qu'on ne puisse pas. Et tant mieux pour nous. Alors, apprends-nous, Seigneur, entre frères et sœurs, à nous regarder ainsi. À marcher ensemble selon cette pensée. Et Seigneur, aide-nous aussi à nous mettre au service les uns des autres. Fais-nous prendre nos talents ou notre parcours blessant parfois pour pouvoir en faire quelque chose qui serve les autres. Seigneur, que nous ne soyons pas axés sur nous-mêmes, mais que tu nous mettes vraiment à cœur d'être un corps avec les membres les uns autour de nous, des autres, afin que nous servions par amour. Merci Seigneur, parce que toi-même tu nous as montré l'exemple et tu as parcouru cette terre pas avec un super véhicule, mais que tu as été méprisable. Tu n'avais rien pour plaire, rien pour attirer le regard, pas d'éclat, pas de beauté. Et tu nous as montré que, avec cela, tu pouvais glorifier pleinement et parfaitement ton Père. Rends-nous sensibles aussi au fait que Satan était le plus beau et que ça a été un piège et qu'il s'est enorgueilli. Et Seigneur, rends-nous attentifs à cela, de ne pas nous enorgueillir même spirituellement de nos réussites, de nos avancées spirituelles. Mais rends-nous, Seigneur, vraiment humbles. Et que notre course puisse te glorifier. Au nom de Jésus. Amen.